Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Zinzinex et vous écoutez l'émission Mare Nostrum. Cette émission est préparée et présentée par Raymond avec Fabrice à la technique. Aujourd'hui, c'est le 14e numéro de notre émission. Le thème que nous avons choisi porte sur les Éthiopiens qui sont venus s'installer en Israël vers la fin du 20e siècle. Et c'est une histoire qui est assez complexe, d'une grande importance à la fois pour les populations concernées, puisque il y a eu un long voyage difficile, et pour l'État d'Israël qui a accueilli ces Éthiopiens. Mais nous avons donc invité quelqu'un qui va nous apporter ses lumières sur tout ce qu'il faut comprendre sur cet exil et cet accueil en Israël. Lisa Antebi-Yemini, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes anthropologue et chargée de recherche CNRS à l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, donc IDEMEC, un des laboratoires de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, bien sûr à Aix-Marseille Université. Vous êtes donc spécialiste de la communauté juive d'Éthiopie et vous avez en particulier étudié et aussi d'une certaine façon, pour cette étude, participé à l'intégration de cette communauté dans la société israélienne. Donc ce sujet est un sujet qui est assez vaste et on va quand même, et avec pas mal de quelques mystères, et on va commencer par ces mystères puisque l'origine même de ces Éthiopiens est assez mal connue, pour ne pas dire vraiment inconnue, parce que personne, enfin j'ai pas eu l'impression qu'on s'accordait sur leur origine. Alors, leur origine, comment les a-t-on connus, qu'est-ce qu'on peut dire de cette origine des Éthiopiens ?
Oui, alors d'abord peut-être pour préciser les termes, hein, parce que je crois que c'est important. Les gens ont parfois entendu le terme falacha, par exemple, pour désigner ces juifs d'Éthiopie. C'est un terme qui est récusé par la communauté elle-même, puisqu'elle vient de l'ancienne langue éthiopienne, le gez, et ça vient du mot falassa, qui voudrait dire errant, vagabond, individu sans terre, et même exilé. Et donc, pour cette communauté juive, c'est un terme qu'ils n'utilisent pas du tout. Et c'était le mot qu'utilisaient les chrétiens pour les désigner.
Est-ce que ça veut dire qu'à l'origine, autant qu'on puisse le savoir, ils n'avaient déjà pas de terre ? C'est pour ça qu'ils les ont appelés comme ça ?
Alors, justement, dans l'Éthiopie chrétienne, quelqu'un qui n'était pas chrétien n'avait pas le droit d'être propriétaire terrien. Voilà. Donc, ils avaient un statut de personne sans terre. Voilà. Et il y a eu un décret, justement, au XVe siècle, disant que celui qui ne se convertissait pas au christianisme resterait un falassa, donc une personne sans terre.
Voilà. Bon, voilà. Déjà quelque chose d'éclairé.
Donc, la communauté juive elle-même se désigne comme Beta Israël, la maison d'Israël, toujours dans cette langue ancienne éthiopienne, le gez, et donc se considérer eux-mêmes toujours comme des étrangers en Éthiopie et des descendants d'une tribu ou d'un groupe juif exilé il y a plusieurs siècles. Donc effectivement, les origines sont très obscures, pour la simple raison qu'il n'y a aucun document historique jusqu'au 15e, 16e, 16e siècle qui parle de leur histoire. Ils ont une tradition orale donc qui est transmise et qui alors change au gré
par définition
des temps, au gré des interlocuteurs. Et on a des voyageurs du 15e, 16e qui rapportent des mythes d'origine qui ne sont pas du tout les mêmes que des voyageurs au 19e siècle qui ont rencontré ces mêmes individus, enfin ce même groupe en tout cas. Donc effectivement une histoire qui évolue dans la tradition orale et donc ce manque de documents fait qu'il y a plusieurs hypothèses. Donc il y a en fait deux grands ensembles de théories, l'une qui verrait un groupe indigène éthiopien, donc un groupe autochtone qui soit aurait été converti au judaïsme, mais on ne sait pas à quelle époque, soit serait un groupe judaïsant, peut-être dissident de l'église éthiopienne chrétienne, très proche de l'Ancien Testament, puisque l'Église chrétienne éthiopienne orthodoxe respecte par exemple l'interdit sur le porc, les chrétiens éthiopiens ne consomment pas de porc, pratique la circoncision des garçons au 8e jour et observe le samedi en plus du dimanche comme jour férié. Ils ont aussi des pratiques de pureté qui se rapprochent de l'Ancien Testament. Et donc, il se peut qu'il y ait un groupe au sein de l'Église éthiopienne qui serait resté beaucoup plus proche du texte biblique ancien. Un autre ensemble d'hypothèses, y verrait, comme le prétendent les Juifs éthiopiens, un groupe exilé juif qui serait venu, alors là aussi à une époque inconnue en Éthiopie. Et là, on a plusieurs possibilités. La narration, disons, qui domine dans ces théories-là, c'est l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba. Donc cette légende est devenue légende nationale éthiopienne. Elle est consignée dans un livre qui s'appelle le Kevre Nagast, qui est écrit en gèze, donc toujours cette langue ancienne éthiopienne, et qui raconte donc la rencontre entre le roi Salomon et la reine de Saba à Jérusalem. Et au retour de la reine de Saba dans son pays, donc qu'on suppose être l'Éthiopie, là aussi les historiens discutent et disent qu'il se peut que ce soit la Nubie ou le Yémen ou l'Arabie Saoudite, donc on n'est pas sûr. Au retour, elle donne naissance à un fils qui s'appelle Ménélique et qui deviendra le premier empereur d'Éthiopie. Quand ce jeune garçon atteint à peu près l'adolescence, il part à Jérusalem rencontrer son père, le roi Salomon, et c'est là qu'il repartira avec l'Arche d'Alliance donc, qui était à Jérusalem et la dépose dans une église à Aksum, au nord de l'Éthiopie, et on raconte qu'elle y est toujours conservée. Personne n'est rentré dans cette église, mais on sait exactement où elle est.
Mais comment ça se fait que personne n'est rentré?
On a essayé, mais oui. Je veux dire, on n'a pas le droit de voir.
Donc il n'y a personne qui l'a vue.
Non. Il y a un moine qui la garde, qui lui-même n'a pas le droit de vraiment s'en approcher. Et voilà.
comme on dit dans les polars, le mystère s'épaissit.
Voilà. Et donc, en partant de Jérusalem avec cette Arche d'Alliance, il a pu la dérober à l'aide aussi d'Israélites sur place et même de fils de prêtres de Jérusalem qui l'ont donc accompagné en Éthiopie. Et donc, c'est une des possibles origines des Juifs éthiopiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire ses descendants... Les Juifs éthiopiens d'aujourd'hui seraient les descendants de ces Israélites qui sont partis de Jérusalem avec Ménélique.
Ah oui.
Voilà.
Et est-ce qu'ils auraient judaïsé des populations sur place?
Voilà, c'est ça, donc ça voilà. C'est une idée, mais voilà. Bon, historiquement c'est très flou. Certains historiens prétendent même que la reine de Saba et le roi Salomon n'ont pas vécu à la même époque. Et comme je vous le disais, la région aussi n'est pas... tout à fait déterminé en ce qui concerne le royaume de Saba. Une autre hypothèse serait que, et là c'est celle que revendiquent aujourd'hui, en tout cas les Juifs éthiopiens à qui on parle souvent, qu'ils descendent de la tribu perdue de Dan, donc une des 10 tribus perdues d'Israël. Et c'est l'hypothèse retenue par le rabbinat d'Israël pour reconnaître en 1975 les Juifs d'Éthiopie comme Juifs à part entière. Donc c'est sur la base de cette origine-là, encore une fois très floue puisqu'aucun document ne l'atteste. Mais au XVIe siècle, un grand rabbin d'Égypte a décrété qu'il avait rencontré deux juifs apparemment d'Abyssinie, donc on pense que c'est l'Éthiopie, et il a dit ils descendent de la tribu perdue de Dan. Donc sur cette opinion rabbinique de l'époque, du XVIe, ce sont les rabbins aujourd'hui qui ont décidé de les reconnaître comme juifs retenant cette origine-là. Ensuite, il y a d'autres hypothèses, qu'il s'agit peut-être d'un groupe juif qui serait venu de l'Arabie, donc qui n'est pas très loin de l'Éthiopie, du Yémen peut-être, qui est juste en face, il y a la mer Rouge au milieu. Il y a eu des guerres entre le Yémen et l'Éthiopie de l'époque, et ça serait peut-être des prisonniers de guerre qui seraient arrivés en Éthiopie, donc d'origine juive. ou alors encore un groupe juif qui serait descendu de l'Égypte, donc qui aurait migré de l'Égypte. En particulier, alors, une garnison juive sur l'île d'Éléphantine, en Égypte, qui pratiquait des sacrifices, parce qu'on a retrouvé des autels et des sacrifices d'animaux. Et c'est le seul groupe juif qui aurait pratiqué des sacrifices à l'extérieur du temple de Jérusalem. Et comme les juifs éthiopiens aussi sont les seuls qui, jusqu'à très récemment, jusqu'à la moitié du XXe siècle, pratiquaient des sacrifices d'animaux, c'est voilà, un fil très ténu qui, encore une fois, pourrait peut-être supposer qu'ils descendent de ce groupe-là.
Voilà, ben, quand j'ai prévenu que c'était, j'ai prévenu aux auditeurs que l'histoire était complexe, mais bon, on a déjà les pistes qui sont suivies par différents historiens, différentes pistes, ils ne sont pas tous d'accord, bien évidemment, mais ça, les historiens sont rarement d'accord entre eux, bien évidemment. Et donc, sur l'origine, on ne sait pas trop, on n'a pas de preuves en tout cas, voilà, c'est ça, hein, ce qui manque principalement, ce sont les preuves. Et les preuves les plus directes qu'on va avoir sur cette communauté, c'est ce qui va se passer plus récemment à partir du 19e.
Voilà. Alors, j'ai peut-être oublié de le dire aussi, c'est très important pour l'histoire, c'est que c'est un groupe qui ne connaît pas du tout l'hébreu. Donc, leurs textes sacrés sont en gèze, cette langue ancienne de l'Éthiopie, qui est la langue liturgique de l'Église éthiopienne orthodoxe. Et donc, leurs textes sont les mêmes, enfin, l'Ancien Testament, en tout cas, est le même que celui utilisé par l'Église. Donc, là encore aussi, quelque chose de très, très unique dans le monde juif, où la plupart des communautés juives ont des textes en hébreu. Et surtout, ils ne connaissent pas tous les textes post-bibliques, donc tous les commentaires rabbiniques qu'on appelle le Talmud et tous les codes de loi ensuite. Donc là aussi, c'est un grand problème.
Oui, donc ce n'est pas encore tout éclair. On va faire une petite pause musicale avec... justement, une musique traditionnelle éthiopienne avec un instrument de musique traditionnel, le masenko.
Masenko.
Voilà, qui est une sorte de violon mono ou bicorde.
Viol, viol. Deux cordes.
Ça, oui, il y en a eu deux, oui. Et c'est, on passe, donc, ce sont des cordes frottées, hein, comme on dit. On va écouter ça.
Mata ambasha kaltafau, wala
Alors, Lisa Antebi Ebini, le 19e va-t-il nous apporter un peu plus de réponses à ces mystères ?
Alors, sans doute, puisqu'on assiste vraiment à une redéfinition identitaire de ce groupe des Juifs éthiopiens. D'abord avec leur rencontre avec des missionnaires protestants anglais qui viennent les voir et qui décident qu'il faut les convertir au christianisme. En fait, à l'époque, l'empereur éthiopien ne laissait entrer que des missionnaires pour christianiser des populations non chrétiennes. Et la condition, c'était que s'ils étaient convertis au christianisme, ils devaient devenir membres de l'église orthodoxe éthiopienne. Donc, ces missionnaires protestants partent dès le 19e siècle, dans les années 1800, à la découverte donc, de ces personnes qu'on appelait déjà falachas dans les récits de voyageurs. Il y a eu un aventurier français, Antoine d'Abadie, qui en a déjà parlé et qui les avait rencontrés dans le nord de l'Éthiopie. Donc, c'est par ces récits que ces missionnaires sont arrivés parmi ces populations. Le taux de réussite a été vraiment minime quand on voit les chiffres de cette population. Mais en tout cas, ça a eu un énorme impact. D'abord parce que, pour la première fois, les Juifs d'Europe ont appris qu'il y avait des gens que ces missionnaires considéraient comme Juifs en Éthiopie. Donc, en entendant que ces missionnaires étaient partis les convertir au christianisme, la communauté juive mondiale s'est mobilisée, et en particulier des Français, puisque le premier émissaire juif occidental, donc blanc, à les rencontrer, venait de Paris. Il s'appelait Joseph Halévy en 1867. Par la suite, un autre personnage est venu, Jacques Feitlovitch, en 1905. Et lui a vraiment œuvré toute sa vie pour d'abord réformer leur judaïsme, qui... je ne l'ai peut-être pas dit assez, mais c'était vraiment un judaïsme biblique, antique. J'ai parlé très très vite des sacrifices, mais on peut dire deux mots sur les rituels de pureté, par exemple, qui sont très très proches du texte biblique. Donc encore une fois, en ignorant tous les textes post-bibliques, leurs pratiques n'ont pas été du tout réformées comme aujourd'hui dans le judaïsme. Donc, par exemple... À la mort de quelqu'un, les personnes qui s'occupaient du cadavre et qui transportaient le cadavre au cimetière étaient considérées comme impures. Et donc, c'était souvent deux ou quatre hommes qui s'occupaient du corps et qui devaient s'isoler pendant 7 jours à l'extérieur du village dans une hutte spécialisée. Encore une fois, selon le texte du Lévitique qui parle de l'impureté transmise par la mort. Pour les femmes, c'était pareil. Pendant leurs règles, elles étaient considérées comme impures et résidaient aussi dans une hutte spéciale à l'extérieur du village pendant 7 jours. Et après un accouchement, elles restaient 40 jours après la naissance d'un garçon et 80 jours après la naissance d'une fille dans une hutte isolée aussi du village où on leur apportait à manger, où elles se reposaient. Et c'était aussi une façon de protéger les nouveau-nés un petit peu aussi de la vie du village, puisqu'ils restaient avec la mère, voilà, dans un espèce de cocon. Alors parfois, il y avait d'autres femmes avec elles, ça dépendait. Voilà, donc c'est quelques exemples comme ça de leur rite très particulier. Et du coup, ces émissaires juifs ont essayé un peu de réformer ce judaïsme et puis même d'envoyer des jeunes scolariser une élite en Occident pour revenir et enseigner aux Juifs éthiopiens en Éthiopie, ouvrir des écoles, etc. Donc, par exemple, Jacques Feitlovitch a vraiment travaillé toute sa vie dans ce sens-là et a donc reconnu ces Juifs éthiopiens comme Juifs à part entière. Et c'est un peu lui qui a diffusé voilà, cette image de ce qu'on a appelé ensuite les falachas dans le monde occidental.
Oui, donc ils ont bénéficié en quelque sorte d'une reconnaissance quasi officielle par ces envoyés des communautés juives qui avaient un caractère un peu, on va dire, un petit peu officiel, entre guillemets. Hein, donc à partir de là, peut-être va naître la revendication.
Voilà, alors eux-mêmes se considéraient comme les derniers juifs au monde. Ça a été terrible pour eux de convaincre ce juif blanc. C'est Joseph Halévy, ce premier juif blanc, qui a eu du mal à les convaincre qu'il était juif, puisque eux pensaient être les seuls juifs au monde. Et quand finalement, ils l'ont cru, il n'est pas revenu pendant 40 ans. C'est ensuite Jacques Feitlovich qui est revenu, qui a recommencé aussi à leur expliquer qu'il y a énormément de Juifs dans le monde et que ce ne sont pas les seuls. Et finalement, ils se sont vraiment pensés à cette époque-là, et en tout cas au début du XXe, comme un groupe juif dans un judaïsme, disons, mondial. Ça a pris du temps, ça a été vraiment, comme je l'ai dit, une reconstruction identitaire pour eux. Mais effectivement, dès le milieu du XXe, ils ont commencé à parler justement d'immigration vers Israël dès que le pays a été créé. Ils ont toujours rêvé d'atteindre cette terre promise, ou en tout cas Jérusalem, puisqu'ils l'appellent Jérusalem. Et dès 1865, je crois, le premier juif éthiopien a marché avec énormément de fidèles, c'était un espèce de prophète, de l'Éthiopie vers Jérusalem. Ils n'y sont pas arrivés, mais en tout cas, c'était déjà un premier élan messianique vers une immigration.
Oui, donc cette révélation, cette affirmation de leur judéité par rapport et leur appartenance à une communauté mondiale va les inciter à réclamer et à essayer de partir vers la terre promise.
Voilà, donc ils ont dû attendre que le rabbinat d'Israël les reconnaisse effectivement comme juifs à part entière. Et donc ça n'a eu lieu qu'en 1975, après des pressions surtout de juifs américains et puis de quelques juifs éthiopiens qui avaient réussi à arriver en Israël, mais clandestinement dans les années 70, puisqu'ils n'étaient toujours pas considérés comme des individus juifs qui pouvaient immigrer en Israël. Et donc finalement, en 1975, ils ont été reconnus comme juifs, qui leur donnaient le droit à revendiquer ce qu'on appelle la loi de retour, donc qui donne accès à toute personne considérée comme juive, donc de mère juive ou convertie au judaïsme orthodoxe, de demander d'immigrer en Israël. Malheureusement, en 1975, on avait un régime communiste en Éthiopie qui ne laissait personne sortir, le régime de Mengistu. Et en fait, les Juifs éthiopiens ont attendu les années 80, des années de sécheresse, d'instabilité politique, où énormément de chrétiens éthiopiens s'enfuyaient vers le Soudan pour justement prendre cette occasion et fuir également. Et donc, dans les années 82, 83, 84, on a assisté à des mouvements de masse vers le Soudan. Et là, dans les camps de réfugiés au Soudan, les Juifs éthiopiens étaient persuadés qu'on allait les sauver et qu'ils allaient atteindre tout de suite Israël. Et ça a été plus compliqué que ça.
Oui, donc là, les difficultés du temps ont fait qu'ils ont pu quitter l'Éthiopie pour le Soudan. Et donc, pour eux, c'était le début de la migration vers la terre promise. Et à partir de là, donc, l'État d'Israël va prendre en charge. Là, on a parlé des pressions extérieures, en particulier américaines. Et à partir de là, donc, l'État d'Israël va prendre les choses en main.
Alors là aussi, surtout avec des pressions, encore une fois, juives américaines, et puis des pressions de proches déjà arrivés en Israël, le gouvernement décide d'organiser en novembre 1984 jusqu'à janvier 1985, la première grande opération qu'on appelait l'opération Moïse, qui a rapatrié 6500 personnes à partir du Soudan dans un pont aérien. Et là aussi, c'était des accords secrets, puisque le Soudan n'a aucune relation diplomatique avec Israël. Il fallait que tout soit gardé très, très secret. Malheureusement, ça a été révélé et donc l'opération s'est arrêtée en 1985. Quelques centaines de Juifs éthiopiens étaient encore restés en Éthiopie au Soudan, et ont pu être rapatriés par la suite, mais la plupart des personnes encore en Éthiopie ont décidé de ne pas continuer à fuir vers le Soudan. Et donc la seconde opération de migration massive, disons, a eu lieu en 1991. Où là, le gouvernement israélien a directement organisé un pont aérien d'Addis Abeba, donc la capitale de l'Éthiopie, vers Tel Aviv, Et en 36 heures, ils ont transporté 14 500 personnes. Là encore, à la veille du renversement du gouvernement de Mengistu, les rebelles éthiopiens étaient aux portes de la ville et encore une fois avec des tractations secrètes et des négociations en échange d'argent. Les rebelles ont attendu pour envahir Addis Abeba le temps que cette opération se termine.
Ah oui, donc il y a eu là, encore une fois, un peu un exploit. 14 000 personnes en l'espace de moins de deux jours, quoi, voilà. C'est ça. Voilà. Oui, c'est quand même une sacrée opération qui a été montée en secret pour pouvoir faire partir ces gens. Est-ce que cette seconde opération, elle va mettre à peu près un terme est-ce que tous les volontaires pour ce départ ont pu prendre un avion et partir, ou est-ce qu'il en est resté à ce moment-là?
Alors justement, Israël a découvert qu'une communauté qu'ils ignoraient était restée à Addis Abeba. Et justement, quand ils pensaient avoir terminé cette opération ou ce rapatriement, ils découvrent que des milliers de personnes étaient encore à Addis Abeba, n'avaient pas reçu justement le statut de juif et n'avaient pas le droit d'immigrer, et constituent aujourd'hui ce qu'on appelle les Falashmora. Donc c'est une communauté de juifs éthiopiens qui se seraient convertis il y a plusieurs générations au christianisme et qui revendiquent aujourd'hui le droit d'immigrer en Israël, qui ont parfois des proches en Israël de premier degré, des frères, des sœurs, des grands-mères, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des problèmes important dans la communauté, puisque le gouvernement israélien les autorise à immigrer, mais au compte-gouttes, pour des raisons souvent de réunification familiale ou des raisons humanitaires, mais ne donne pas le droit à tous ces Falashmora d'immigrer.
Oui, donc depuis 1992, ceux qui sont restés, on n'a pas réussi, enfin, l'État d'Israël n'a pas réussi quand même à régler complètement le problème de ceux qui sont restés, dans la mesure où, en même temps, ils n'ont pas la même, comment on pourrait dire ça, le même statut, quoi, simplement, hein, lorsqu'ils pourraient arriver donc en Israël. On va faire une petite pause musicale tout en restant toujours sur les Éthiopiens israéliens, comme on les appelle, avec un groupe de rap qui s'appelle Café Shaor Azak, et qui est un groupe particulier dans la mesure où il est formé donc de deux Éthiopiens et d'un Israélien. C'est un des plus grands noms de la scène rap, et donc très connu, incontestablement très célèbre, qui représente donc cette communauté éthiopienne israélienne. J'ai remarqué qu'on associait toujours les deux noms comme ça, hein. Voilà.
מי נכנס עושה כאן בלאגן הוא לא נורמלי שער על יעלומים שאין לו מני בלי בושה חושבים שהם חיים באמריקה היום נחשוף אתכם נראה אתכם כמו מסניקה אחד ועוד שתיים כמו תרגיל של מתמטיקה בלי קורדינציה מזיז את הגוף עם מוזיקה שער על מעריצים שאין לו כלום סתום תחזור לאחר תאית בכיוון מוכר אתכם כמו דילים כל כך דבילים מדברים על בשר שהם בכלל סרדינים משחקים אותה קשוחים, משחקים בברבי נוסעים על טרנטה, שרים על פרארי לא אני לא מרים את האף אבל שואב למעלה אמיתי לעצמי עם רגליים על הקרקע לא אני לא אומר על החלום לוותר טיפ קטן תהיה אתה לא מישהו אחר ושאר על יהלומים שאין לו מעלה שאר על ביצ'יס כל היום עזוב הוא לא נורמלי תוריד המסכה זה טוב אני ולך בכל יום שעובר אתה עובד על עצמך שער על יהלומים שאין לו מענה שער על ביצ'יס כל היום עזוב הוא לא נורמלי תוריד המסכה עשה טובה לי ולך בכל יום שעובר אתה עובד על עצמך ניסיתי לשבת להתעלם מכל השטויות שהם כותבים גדם לרעתם לא הצלחתי למזלכם רק הגעתי לגאול אתכם מהיסורים והחפירות השקרים והמסכות שמנסים למכור לנו ומשמיעים בתחנות בני זונות לא מבין
מבינים שהם לא יקנו אותי אני עושה את זה בשביל עצמי לא למניאק שלידי בדיוק כמו שאני מתהלך לי בשכונה מהשני ומרחף אני לא מנסה לרצות אף אחד עושה את זה בשביל הכיף וזה משהו שאף פעם לא תצליחו לקחת ממני כמו הרבה דברים שרציתי וחלמתי בילדות ועד היום אין לי מי ייתן לי אף אחד אם לא אני לעצמי אומרים מי יהיה טוב הרוב טוב אני אומר כי אני לא שר על מני אני לא שר עליי סני נשאר נורמלי עם המייק ופייס לפעמים זה לא נורא להיות מקום אחרון נשאר בקרקע גם אם אין לי מקום בדרכון ו...
שר על יהלומים שאין לו מני שר על ביצ'יס כל היום עזוב הוא לא נורמלי תוריד המסכה עשה טובה לי ולך בכל יום שעובר אתה עובד על עצמך
והוא שר על יהלומים שאין לו מני
Alors, je vous rappelle qu'on est sur Radio Zinzine, dans l'émission Mare Nostrum, et que nous sommes en train de nous interroger sur les Éthiopiens d'Israël, en compagnie de Lisa Antebi Yemeni. Alors, on va donc maintenant s'interroger sur les politiques d'intégration mises en œuvre après l'arrivée de plusieurs milliers d'Éthiopiens dans des circonstances compliquées. Hein. Donc il y a l'accueil d'abord, et puis surtout après, le fait de devenir israélien. Alors cet accueil, il se passe comment? Parce que accueillir 14 000 personnes en moins de deux jours, ça ne doit pas être simple.
Alors effectivement, cette opération en 1991, exactement en mai 1991, était préparée de longue date, mais on attendait justement que le gouvernement soit renversé pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc le gouvernement israélien louait depuis plusieurs mois des hôtels, des camps de vacances, toutes sortes de centres d'accueil en attente de cette arrivée massive, puisqu'ils savaient que ça allait se passer très très vite dès qu'il y aurait un changement de régime et qu'ils auraient quelques heures peut-être pour...
Oui, il fallait être prêt.
Voilà. Donc l'opération était prête depuis longue date, on attendait de la déclencher, et du côté israélien, donc on louait depuis... Le gouvernement louait depuis... plusieurs mois déjà, des centres d'accueil et des lieux pour les accueillir. Donc, effectivement, en un week-end, tous ces centres ont été ouverts. Donc, les gens sont arrivés, ont été installés dans des endroits parfois précaires, donc des hôtels, des centres de vacances. Et ils sont restés en général quelques mois, parfois un an. Ensuite, il y a eu effectivement une crise du logement. Puisque c'était aussi les mêmes années, début 90, où sont arrivés plus d'un million de juifs de l'ex-Union soviétique, qu'il fallait aussi loger.
Ah oui, ça a multiplié les problèmes.
Progressivement, évidemment, ouais. Ils ne sont pas arrivés en un week-end, mais bon, sur quelques années, ouais, c'était
quelques
aussi
années,
voilà,
beaucoup, ouais.
Plusieurs personnes à loger, plusieurs milliers de personnes à loger. Et donc, du coup, le gouvernement israélien a décidé... de mettre en place ce qu'ils ont appelé des villages de caravanes. C'était en fait des sites de mobile home, des maisons préfabriquées, où ils ont logé à la fois des immigrants russes et des immigrants éthiopiens. Donc en général, un an après leur arrivée, vers 1992, quelquefois 93, ça dépendait des régions, tous ces immigrants éthiopiens ont été donc installés dans ces centres de maisons préfabriquées, souvent isolées des centres urbains. Ils se retrouvaient souvent entre eux, et donc ça n'a pas aidé à l'intégration. Mais bon, il y avait tous les services sur place, donc parfois des services médicaux, ce qu'on appelle des oulpanes, donc des cours intensifs d'hébreu. Les enfants étaient assez rapidement scolarisés dans les écoles. Certains jeunes ont pu aller étudier à l'université, des cours aussi de réinsertion professionnelle pour les adultes, puisqu'ils venaient, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'était des agriculteurs qui venaient des hauts plateaux éthiopiens, donc très loin
donc,
des centres urbains.
Oui, c'est ça.
Analphabètes à 90%, donc pas du tout outillés pour entrer dans le marché.
Oui, dans une société moderne, voilà. C'est ça, très éloignée d'une société moderne.
Donc... Là aussi, ils sont restés parfois plusieurs années dans ces maisons préfabriquées. Et puis, à partir de 1993, le gouvernement israélien a décidé d'entamer un programme d'aide au logement. où ils ont donné des subsides pour à peu près 90% de la somme de l'achat d'un appartement pour que ces immigrants puissent s'installer assez rapidement. Donc ils ont acheté très rapidement des appartements dans, il y avait une liste de 52 communes où ils pouvaient acheter. Donc encore une fois avec des sommes énormes débloquées par le gouvernement. Et du coup aujourd'hui presque tous ces immigrants sont propriétaires de leur appartement. Le problème, c'est que dans l'esprit des politiciens à l'époque, ils pensaient les répartir dans toutes ces communes qui étaient justement choisies pour être des communes assez fortes, pas défavorisées, avec des services sociaux, etc., assez solides pour accueillir ces immigrants qui avaient besoin justement de beaucoup d'aide. Et les immigrants eux-mêmes ont voulu habiter presque tous ensemble. Donc, les gens que je connaissais, par exemple, m'ont dit « on va acheter un appartement exactement dans la même rue ou dans le même immeuble que notre oui. cousin, notre voisin.
» Les liens communautaires
voilà, pour tellement... des raisons très simples. Ils voulaient être à côté, justement, des leurs. Ils ont recréé tout de suite des structures traditionnelles de villages éthiopiens. Donc, pour acheter ensemble la viande, pour, par exemple, les enterrements, ils avaient des sociétés funéraires. Pour des emprunts et des sociétés de crédit... à rotation, ce qu'on appelle les tontines, etc., etc. Donc, cette politique qui, au départ, envisageait justement de les disperser, a vu un résultat exactement contraire, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des enclaves ethniques éthiopiennes, malheureusement, où ils habitent presque tous ensemble, puisque les Israéliens non éthiopiens ont très vite vendu leur appartement dans ces quartiers-là, ont quitté. Et donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle souvent dans la presse israélienne des ghettos éthiopiens,
ouais.
Où ces immigrants se retrouvent à vivre pratiquement entre soi.
Et oui, c'était quand même un petit peu prévisible que des gens qui subissent une telle modification de leur milieu de vie allaient tenter de se retrouver pour se rassurer finalement. C'est certainement ça. Alors je voulais vous poser deux petites questions. Une première, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait les migrants juifs qui avaient été mélangés. Ils sont partis, les migrants russes, pardon, qui avaient été mélangés, ils sont vite partis parce qu'ils ils venaient quand même d'une société développée. C'est peut-être plus simple.
Voilà. Alors, ils ont surtout justement été dans des grandes villes, donc comme Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, donc les grands centres urbains. Bon, ils ont eu aussi des problèmes de réinsertion professionnelle. Il y avait beaucoup de médecins ou de musiciens qui n'ont pas toujours trouvé du travail. Mais effectivement, ils ne vivent pas toujours dans les mêmes quartiers que ces immigrants éthiopiens.
Oui, c'est ça. Et deuxième question, très personnelle. C'est là que vous avez œuvré pour votre travail, et que c'est dans ces centres, à ce moment-là, que vous avez travaillé pour votre étude d'anthropologie.
Alors moi, j'ai justement commencé... je suis arrivée en Israël en mai 1991, sans savoir, début du mois de mai, sans savoir que le 25 mai allait avoir lieu cette opération. Donc, en fait, j'ai travaillé dès cette opération Salomon en 1991, donc dans des centres d'accueil où les gens venaient vraiment de débarquer il y a 3 jours, quoi. Donc, c'est là que j'ai commencé comme bénévole à distribuer des chaussures, des vêtements, de la nourriture, etc., pour commencer un travail de terrain pour une thèse de doctorat. Mais c'était pas prévu.
On va faire encore une petite pause musicale, alors extrêmement différente, puisque là, il s'agit de Esther Rada, donc, dont on parlait tout à l'heure, qui est donc une chanteuse magnifique, avec une voix très très belle, qui est d'origine juive éthiopienne, qui a, dit-on, inventé à elle seule un style inédit, l'Ethio-Soul, j'ai lu ça quelque part. Donc elle est influencée par les plus grandes du jazz, en particulier par Nina Simone. On va écouter Life Happens.
Sometimes it seems like you just sang 'cause you're afraid that the silence reveals you much more. Paralyzed by the thought that maybe you got caught. Back in your lies in a suitcase, running to another fake joy. Ignoring the pain, life happens.
you prefer long walks. It's not a sad hat that every journey be a happy hour. That song that sets up in your heart gets rolling over and over again, saying, wake up, son. It's an everlasting game. While you're looking straight, while ignoring the pain, life happens. And while surrendering to fear, and while holding back your tears, life happens. Where were we? While we're closing the doors, don't know what we're waiting for. Life happens. And while we're covering up, while we act in the dark,
donc une fois accueillis ces milliers d'Éthiopiens, ben il va falloir en faire des Israéliens. Et donc, je ne veux pas dire que les choses se compliquent, mais ce n'est pas forcément facile d'intégrer des populations venues de loin avec un genre de vie complètement différent par rapport à une société développée. Donc, on a vu que leur nom d'ailleurs avait changé un peu entre le moment où ils sont partis et le moment où ils arrivent, hein, ils sont devenus plus plus fiers de leur nom, plus envieux de se présenter comme juifs, je crois. C'est l'impression que j'ai eue en préparant un peu cette émission. Alors quelles sont les voies choisies par le gouvernement israélien pour cette intégration ou cette assimilation? Il faudra voir un peu lequel des deux mots convient le mieux. Peut-être que les deux peuvent être utilisés pour des moments différents.
Alors d'ailleurs, il y a un mot en hébreu qu'on utilise. Le ministère de l'intégration s'appelle en fait, le terme pour intégration c'est klita, qui veut dire, dans sa traduction littérale, absorption. C'est le ministère de l'absorption.
Ah d'accord.
Donc,
ah, oui.
Les immigrants doivent être absorbés dans la société.
D'accord, oui. Oui, est-ce que c'est un moyen terme? Peut-être, je ne sais pas, oui.
Alors dans la logique des politiciens israéliens, c'est vraiment de rejeter toute la culture ancienne, diasporique, et donc de s'approprier tous ces nouveaux modèles d'une culture israélienne, avec la langue surtout. Les fêtes nationales, les fêtes juives, et un mode de vie israélien.
Alors, quelles sont les catégories de problèmes qu'il y a eu à régler? Parce qu'il n'y en avait pas qu'un. Hein.
Voilà. Alors, bon, on a parlé un peu du logement, je n'y reviens pas. Alors, effectivement, il y a des problèmes dans le monde du travail. Il y a encore beaucoup de chômage, surtout les adultes et les hommes au-delà de 50 ans, par exemple. Des emplois encore très... précaires ou en tout cas au bas de l'échelle socio-économique pour les raisons que nous avons évoquées. Chez les jeunes aussi, des problèmes à l'école, donc souvent des échecs scolaires au début, puisque c'était des gens qui n'avaient jamais été à l'école. Donc en une génération, il fallait aussi sauter ce fossé. Donc aujourd'hui, on a des résultats meilleurs, par exemple au baccalauréat, réussite parfois assez étonnante entre les années 80 et aujourd'hui. Une évolution aussi du nombre, par exemple, d'étudiants à l'université qui a augmenté de plus de 100%. Mais il y a encore, par exemple, des problèmes de racisme. Et là, les jeunes en parlent beaucoup. La seconde génération est très touchée d'être une minorité noire dans une société qui est perçue comme blanche, bien qu'on peut aussi discuter de ça.
Oui, puisqu'il y a quand même des diasporas diverses et variées dans Israël.
Mais ils se sentent vraiment souvent discriminés en raison de leur couleur, en raison aussi des soupçons sur leur identité juive, puisque même s'ils étaient reconnus comme juifs par le rabbinat, ils ont dû d'abord se soumettre à une conversion symbolique. Jusqu'aujourd'hui, il y a des doutes donc sur cette identité juive au moment, par exemple, du mariage, où un rabbin de la communauté juive éthiopienne doit certifier que les familles sont effectivement juives, et sinon, un des partenaires ou les deux partenaires au mariage doivent de nouveau refaire une conversion symbolique. Et puis surtout, ils disent que, par exemple, il y a de la discrimination à l'embauche, qu'ils sont discriminés dans la rue, qu'il y a du racisme au quotidien, etc. Et par exemple, en 2015, il y a eu des émeutes assez violentes, surtout donc de cette jeune génération qui dénonçait la brutalité policière, les arrestations au faciès, et puis l'injustice sociale qu'ils ressentent parfois comme citoyens de seconde zone.
Oui. Et donc, dans quel domaine y a-t-il des réussites particulières? Alors, là, on a vu un peu des échecs, là, en particulier dans les métiers, dans certains métiers où il n'y a pas d'accès, quoi, finalement, hein, par manque de formation, par difficulté de former les gens, peut-être. Et dans quel secteur on peut avoir, se révèle quand même des réussites intéressante.
Alors, il y a justement maintenant une classe moyenne émergente, si on peut dire, avec justement des parcours de promotion socio-économique assez spectaculaires, souvent. Par exemple, en politique, il y a eu plus de 10 parlementaires d'origine éthiopienne, dont une femme aussi, qui faisaient partie de tous les partis politiques, de la gauche à la droite, sans jamais appartenir ou sans former un parti politique ethnique éthiopien, par exemple.
Oui, il n'y a pas de parti ethnique.
Non, donc
pas
c'était vraiment tout. Une volonté D'accord. de s'intégrer dans les partis politiques israéliens. Dans l'armée aussi, il y a plusieurs... alors, il y a aussi justement des cas de discrimination, de racisme. Il y a un taux, par exemple, de suicide de soldats éthiopiens supérieur à la moyenne. Mais on trouve aussi voilà, beaucoup d'officiers, un chef de bataillon d'origine éthiopienne et donc des personnes qui ont des postes très élevés dans le domaine militaire. Et puis, peut-être le plus connu, c'est dans tout ce domaine artistique. On a entendu...
Oui, on a entendu quelques exemples.
Donc il y a aussi des chorégraphes, il y a des peintres, des femmes peintres aussi. Il y a des romanciers qui écrivent surtout en hébreu, des poètes aussi. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un roman qui a été traduit en français qui s'appelle Asteraï. Donc un roman d'un juif éthiopien publié chez Actes Sud, si ça intéresse quelqu'un. Des photographes aussi. Des réalisateurs, des réalisatrices de documentaires, de films. Donc, on a dit les chanteurs. Donc, vraiment, une floraison de talents dans les carrières artistiques. Dans la diplomatie aussi, il y a par exemple la première femme ambassadeur d'Israël d'origine éthiopienne qui a été envoyée en Éthiopie, à Addis Abeba.
Ça facilite les relations.
La Miss Israël de 2013 était aussi d'origine éthiopienne. La vice-maire de Tel Aviv est aussi d'origine éthiopienne. Voilà, donc il y a comme ça...
Alors, je vous entends souvent citer des femmes. Est-ce que par rapport, justement, par rapport à l'origine, est-ce que c'est quand même quelque chose de nouveau pour cette communauté?
Alors oui, mais justement, les femmes réussissent parfois bien mieux que les hommes. Alors d'abord, elles ont souvent une capacité d'intégration beaucoup plus importante. Elles sont en relation souvent plus avec les Israéliens par l'intermédiaire des enfants. Donc elles apprennent parfois plus vite la langue que les hommes. Et par exemple, à l'université et dans les études supérieures, elles sont maintenant majoritaires par rapport aux hommes d'origine éthiopienne.
Oui, donc il y a une plus grande réussite et ça pose des problèmes particuliers pour la communauté elle-même.
Alors il y a effectivement des tensions entre les genres, entre les hommes et les femmes. Il y a malheureusement eu une hausse dans la violence domestique et même un nombre croissant de meurtres entre époux. Donc des hommes qui tuent leurs femmes et souvent se suicident après. Et c'est souvent pour ces raisons de déshonneur de l'homme qui se sent dépassés. Ils disent souvent qu'ils vivent dans un pays de femmes, où c'est les femmes qui contrôlent, qui dominent. C'est souvent des hommes qui, par exemple, sont au chômage, les femmes travaillent à l'extérieur. Les enfants ne les respectent plus non plus. Il y a des fossés générationnels aussi et des tensions très fortes entre les jeunes et les parents. Mmh. Donc les chefs de famille qui contrôlent plus leurs enfants, qui n'ont pas de travail, qui n'arrivent plus à avoir de l'autorité sur leurs femmes non plus, et ça crée parfois ces situations dramatiques.
Oui, donc, et ces femmes qui ont finalement une vie sociale beaucoup plus importante au bout du compte, hein, en travaillant par rapport à des hommes qui sont quelquefois, peut-être assez souvent même au chômage, ça permet donc à ces femmes d'avoir beaucoup plus d'ouverture et effectivement peut-être contribuer à la distance et aux problèmes à l'intérieur des familles telles que vous les évoquez. Est-ce qu'il y a des restes importants de leur origine dans leur vie encore aujourd'hui?
Alors, oui, la culture éthiopienne est florissante en Israël et il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes, alors plutôt des hommes dans ces cas-là, mais quelques femmes aussi qui sont entrepreneurs, qui font des allers-retours avec l'Éthiopie, qui font de l'import-export. Et par exemple, la musique qu'on a entendue au début de l'émission, la musique traditionnelle éthiopienne jouée par ce qu'on appelle un barde, un asmari, un troubadour, est tout à fait vivante en Israël. Donc c'est de la musique qu'on entend très souvent dans les mariages juifs éthiopiens. Le comble du chic, c'est de faire venir un chanteur
carrément d'Éthiopie,
éthiopien chrétien, oui. Au mariage juif éthiopien en Israël. Donc la musique éthiopienne circule, elle est écoutée. Il y a une télévision israélienne éthiopienne par satellite qui est diffusée donc en Israël, qui a été créée par un entrepreneur juif éthiopien. La nourriture aussi est très présente. Beaucoup de restaurants éthiopiens en Israël. Les familles préparent la galette traditionnelle qu'on appelle l'injera, avec la farine de teff, donc qui est une céréale éthiopienne. Et d'ailleurs, Israël est, je crois, le plus gros importateur de teff, de cette céréale, dans le monde, donc de l'Éthiopie vers Israël. Mais comme je l'ai dit aussi, des liens dans les deux sens, donc avec des gens qui
donc
voyagent beaucoup.
Des échanges fréquents et importants.
D'Israël vers l'Éthiopie aussi.
D'accord. Alors encore une petite virgule musicale avec un groupe qui s'appelle The Idan Reichel Project. Et c'est curieusement, c'est une chanson qui s'appelle Mon Amour et qui est chantée partiellement en français. Je n'ai pas su pourquoi. Et donc, c'est un claviériste, compositeur, interprète, etc., qui travaille beaucoup avec les chants traditionnels. Il mélange un peu les musiques traditionnelles éthiopiennes avec les chansons israéliennes, avec la musique électronique, etc. C'est un petit peu tout ça. On l'écoute un petit peu.
T'en vas pas, je te revois. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirais c'est difficile. Ne t'en vas pas, je te revois. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul. Je dirais c'est si difficile. Ne t'en vas pas, je te revois. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirais c'est difficile. Ne t'en vas pas, je te revois.
Je voulais vous poser encore deux questions. Première question, quelle relation ces Israéliens éthiopiens ont-ils avec les autres diasporas ou avec les autres communautés juives du monde? Est-ce qu'il y a des relations particulières?
Alors, pas à ma connaissance. Ouais. Il y a effectivement aujourd'hui tout un mouvement de revendication d'origine juive en Afrique. Il y a des milliers de groupes africains qui se revendiquent comme juifs. Et d'ailleurs, je renvoie, pour ceux que ça intéresse, à un ouvrage d'Edith Bruder qui s'appelle « Black Jews » et qui fait un petit peu le point sur tous ces groupes en Afrique qui se disent juifs. Parfois, les origines sont encore plus ténues que celles des juifs d'Éthiopie. Mais en tout cas, ces groupes regardent les juifs éthiopiens comme un modèle justement de réussite, comme une communauté qui a permis... qui a réussi à convaincre le monde juif qu'ils étaient juifs et qui a même réussi à immigrer en Israël. Donc pour eux, c'est vraiment l'exemple type à suivre. Donc on a des groupes comme ça éparpillés dans toute l'Afrique, des groupes par exemple de longue date comme les Lemba qui depuis longtemps se revendiquent comme juifs. Il y a des groupes plus nouveaux. Par exemple, les Juifs au Madagascar, qui ont récemment été convertis par des rabbins américains libéraux, et que Israël ne reconnaît pas encore à part entière comme juif. Donc, pour l'instant, pas de migration de masse. Mais on peut imaginer que dans l'avenir, ces groupes arrivent.
Oui, c'est ça. Ça risque de se
convaincre.
Reproduire. Donc, voilà, c'est ça. Dernière petite question. Finalement, ces Éthiopiens en Israël, on a vu que leur histoire, leur accueil, leur intégration avait été compliquée. Quelles conséquences, finalement, en quelques mots, sur la société israélienne?
Alors, c'est vrai que on peut parler peut-être d'une intégration à double tranchant, ou en tout cas très, très contrastée, avec à la fois des échecs aujourd'hui, mais aussi des réussites. En ce qui concerne la société israélienne, il s'agit d'un groupe dont on parle beaucoup, beaucoup. Il faut quand même se rappeler qu'ils sont 145 000 à peu près, donc moins que 2% de la population. Aujourd'hui, Israël compte plus de 8 millions d'habitants, donc finalement, c'est très, très peu. Mais ils sont très visibles, à la fois par leur couleur de peau, mais aussi souvent par l'habillement des personnes plus âgées qui sont avec des toges blanches, qui s'habillent encore à l'éthiopienne. Et puis, donc, j'ai parlé de toutes ces pratiques éthiopiennes qui continuent de perdurer. Et je pense que ce que Israël a vu aussi, c'est qu'on peut être à la fois éthiopien et israélien. Et c'est ça que revendique énormément la seconde génération. J'ai très vite évoqué ces émeutes en 2015. Un des signes, à mon avis, révélateurs, c'est qu'ils défilaient avec des drapeaux à la fois éthiopiens et israéliens. Donc pour eux, c'est tout à fait compatible d'être les deux. Et ça, pour le gouvernement israélien, c'est assez compliqué à comprendre, puisque le but des politiques israéliennes, c'était justement, comme on l'a dit, d'absorber ces immigrants et de ne pas garder de traces de ces traditions éthiopiennes.
Mais en même temps, c'est quand même un signe de réussite,
oui.
On pourrait dire.
Ah oui, oui, oui. Non, ils ont réussi tout à fait à concilier les deux.
Mais c'est ça, s'ils concilient les deux, c'est que l'intégration, l'absorption, vous m'avez dit, le ministère israélien s'appelle le ministère de l'absorption. Finalement, cette absorption, finalement, a à peu près réussi. Ben écoutez, Lisa Antebi-Yemini, je vous remercie infiniment de votre présence. Je rappelle que vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Les Juifs d'Éthiopie, de Gondar à la Terre promise » chez Albin Michel, dans la collection « Présence du judaïsme ». Donc, je prends un petit instant pour signaler aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter en direct sur 88.1, le jeudi à 12h30, le samedi à 15h, les premières et troisièmes semaines de chaque mois. Et les deuxièmes et quatrièmes semaines en rediffusion, à des horaires variables, à consulter sur le site radiozinzine.org, rubrique programme. Signalons aussi qu'on peut désormais nous écouter en replay ou télécharger toutes nos émissions sur le site de Radio Zinzinex, les émissions Mare Nostrum, où vous pouvez également me laisser des messages pour demander des informations ou faire des remarques, et je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine. We're both told they cannot touch, and a fear's in between, and this stupid game we both can't win. I better wait, had to go to save a soul.